dire que beaucoup d'entreprises est confrontée à ce dilemme. On peut quand même mettre une situation un peu intermédiaire entre diversification et spécialisation, qui est l'intégration verticale. Donc, spécialisation, c'est le développement dans l'activité dans le secteur. Diversification, c'est un développement hors du secteur, hors du DAS, du domaine d'activité stratégique. Et l'intégration, c'est un développement. Intégration verticale, c'est un développement qui se déroule à l'intérieur du domaine d'activité, mais à la périphérie du métier ou de la fonction qu'occupe traditionnellement l'entreprise. L'intégration verticale, c'est d'une certaine manière le principe d'acquisition d'entreprise dont l'activité est complémentaire à la vôtre sur la chaîne de valeur. Donc si vous reprenez le concept de chaîne de valeur que vous aviez étudié l'année dernière, moi, dans ce concept de chaîne de valeur, vous aviez l'idée qu'une entreprise crée de la valeur en fonction d'opérations et d'activités différentes. Alors, je vais essayer de prendre un exemple concret parce que ce sera peut-être plus simple. Vous prenez la réalisation d'un livre, d'un ouvrage. Qu'est-ce qui apporte de la valeur ajoutée au lecteur? Tout d'abord, il y a le travail de l'auteur de cet ouvrage. Que ce soit un documentaire, un essai, une fiction. Donc il y a un travail de documentation, de recherche, d'imagination. Et le rôle de l'éditeur, c'est d'accompagner l'auteur pour créer cette œuvre de façon à ce qu'elle soit lisible et qu'elle réponde aux besoins d'information ou de loisirs du lecteur. Donc première étape dans la création de valeur sur l'ouvrage, c'est l'étape d'édition, c'est-à-dire le travail de coordination entre l'auteur et l'éditeur, avec les retouches de style, de forme, le découpage de l'ouvrage, la mise en forme. Ensuite, l'ouvrage doit être réalisé dans un format par un service d'impression. Qu'est-ce que le service d'impression apporte comme valeur ajoutée? Il va rendre l'ouvrage attractif, lisible, il va mettre en forme toutes les idées de l'auteur et de l'éditeur sous un format papier et sous un format de livre facile à transporter ou à consulter. Donc l'imprimeur va apporter de la valeur ajoutée par le choix des papiers, du grammage, par la typographie, par la mise en page, par la première, troisième de couverture, l'impression des couleurs, etc. Ensuite, vous avez les libraires qui vont également apporter de la valeur ajoutée aux lecteurs et aux clients. Pourquoi ? Parce qu'ils vont recevoir les ouvrages, les lire et conseiller les lecteurs en fonction de leur goût, en fonction de leurs attentes. Autrement dit, ils vont faire gagner du temps aux lecteurs dans un choix pléthorique d'ouvrages. Notamment la rentrée littéraire, vous avez 300-400 ouvrages sur un mois. Le libraire aide le lecteur à faire son choix en fonction de sa personnalité, de ses envies. Donc le libraire est un conseiller, un vendeur conseiller. Et bien sûr, l'acheteur d'ouvrage rémunère tous ses intermédiaires et tous ses acteurs. Il va rémunérer le libraire quand il achète l'ouvrage en payant des commissions de distribution, il va payer l'imprimeur en payant des marges d'impression et des coûts de fabrication, il va payer l'éditeur en payant des marges de conception et d'image, il va payer l'auteur en rémunérant les droits d'auteur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration verticale dans tout ça? Prenons un éditeur. Vous avez certains éditeurs qui, pour garantir une forme de contrôle de qualité ou de contrôle commercial sur leurs clients, vont, pourquoi pas, décider d'intégrer dans leur entreprise une activité d'impression, une activité de libraire. Pendant des années, vous aviez, par exemple, des entreprises comme Gallimard qui possédaient leur propre service d'impression et leur propre circuit de distribution et de librairie. Ce qui permettait de contrôler toutes les étapes de création de valeur vis-à-vis de leurs clients. Donc, un éditeur qui contrôle un imprimeur qui contrôle également un libraire, c'est une entreprise qui fait de l'intégration verticale. Pourquoi ? Parce que ces activités sont complémentaires dans la création de valeur ajoutée pour un client.
Même s'il n'achète pas.
Pardon ?
Même s'il
n'achète
pas.
J'ai pas entendu, excusez-moi.
Même s'il ne rachète pas.
Si, il les rachète nécessairement. Quand je dis intégration verticale, ça veut dire que l'entreprise rachète et possède en propre, possède la propriété d'autres entreprises qui sont considérées comme complémentaires sur la chaîne de valeur. D'accord ? Donc, ne confondez pas intégration verticale et diversification. Intégration verticale, c'est des activités qui sont complémentaires dans une même logique de création de valeur. Qui voulait poser une question?
Si vous parlez de réseau intégré dans ce cas-là, c'est-à-dire du haut de la chaîne jusqu'en bas, prenez l'exemple des éditeurs qui font à la fois la rédaction, qui dirigent presque la rédaction des bouquins, qui commandent, entre guillemets, jusqu'à la distribution et la promotion de ces bouquins qui est organisée par ces éditeurs.
On ne peut pas parler de réseau intégré dans le sens où la notion de réseau n'est pas compatible avec la notion d'intégration. Je reprends l'exemple de l'Europe dont je parlais tout à l'heure. L'Europe, c'est un réseau de pays. On n'est pas dans une logique d'intégration. Ce n'est pas un pays qui prend le contrôle sur les autres, ou un ensemble de pays qui intègre les autres pays. D'accord ? Chaque pays qui fait partie du réseau reste indépendant, mais doit à la communauté un certain nombre d'adaptations aux règles, aux conventions, aux textes de loi, etc. Donc être membre du réseau comporte des devoirs, mais pas dans un contexte d'intégration. Le contexte d'intégration, c'est prendre le contrôle, la propriété d'une entreprise, et donc de décider à la place de l'entreprise. Exemple, vous avez dans PSA, vous avez une entreprise vous avez Peugeot qui possède un équipementier qui s'appelle Faurecia. Et Faurecia est intégré donc chez Peugeot. Ça veut dire que Faurecia va travailler notamment pour réaliser des amortisseurs pour les besoins de Peugeot. Peugeot considère que c'est une pièce très importante pour la sécurité et l'image des produits de Peugeot, par exemple. Mais Faurecia ne peut vivre au sein du groupe PSA que si Faurecia est capable de fournir un certain nombre de pièces pour les concurrents de Peugeot. Parce qu'en termes d'économie de taille, il n'est pas possible que Faurecia survive uniquement par rapport aux besoins de commande de Peugeot et par rapport surtout à des équipementiers qui sont indépendants et non intégrés. Donc si on prend Faurecia, vous avez 40% du chiffre d'affaires qui est réalisé par PSA, alors que Faurecia appartient à 100% à PSA, et 60% du chiffre d'affaires qui est réalisé auprès des concurrents de PSA. Donc c'est aussi une manière pour PSA de peser dans les négociations avec ses concurrents et de peser dans les négociations sur le marché. Bon, j'espère qu'après la pause, je n'aurai pas le plaisir de vous entendre discuter comme vous l'avez fait pendant une heure et demie. Donc je vous propose de prendre 20 minutes de pause et donc ces charmantes demoiselles, je ne vous retiens pas davantage pour l'après-midi. Donc nous allons parler maintenant de la deuxième partie du tableau, celle qui est consacrée au désengagement, et notamment au désengagement industriel. Donc nous avons évoqué dans un premier temps trois situations d'investissement et de croissance industrielle, spécialisation, intégration verticale, diversification. Et il faut savoir que vous avez également des possibilités de croissance et de développement à travers la notion de désengagement. Et si on prend la terminologie du tableau, le désengagement dans le secteur, c'est correspond à la cessation. Le désengagement à la périphérie correspond à l'externalisation, et le désengagement sur un autre secteur correspond au recentrage. Alors, on va expliquer un peu de quoi il s'agit. Et tout d'abord, pourquoi l'entreprise est-elle confrontée à la manœuvre de désengagement ? Eh bien, parce que il arrive un moment où l'entreprise n'est plus en mesure de faire augmenter ses revenus, d'améliorer sa position commerciale ou d'investir avec des capitaux propres ou avec recours à l'endettement. il arrive un moment où tout simplement la croissance industrielle est stoppée. Alors pourquoi la croissance industrielle est-elle stoppée? Eh bien, comme le montre un petit peu ce tableau, premier cas de figure, la cessation, ça veut dire que l'entreprise, elle n'est pas compétitive dans son domaine de spécialité. Elle n'est pas performante. Et donc, plutôt que de continuer à perdre de l'argent dans son domaine, elle peut être amenée à céder les actifs, à vendre les actifs et à sortir de cette activité, à quitter ce métier. Bon, je reprends l'exemple de l'entreprise Tati. Tati qui était spécialisée au départ dans la distribution textile à bas coût. Une analyse stratégique sommaire montrait que Tati avait une taille critique trop faible par rapport à ses principaux concurrents et avait 10-15 ans de retard par rapport au secteur de distribution, de grande distribution. Tati était entre guillemets confrontée à une double concurrence, celle des hypermarchés qui sont capables d'avoir par la centrale d'achat des remises et des rabais très importants pour faire du textile un produit d'appel. Et puis Tati était également concurrencée par des entreprises spécialisées de très grande taille dans la distribution textile, exemple H&M ou d'autres entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tati, dans son positionnement stratégique, n'avait pas la taille suffisante pour rivaliser avec des entreprises spécialisées comme H&M et n'avait pas une capacité à attirer des consommateurs comme les hypermarchés situés à la périphérie des grandes villes, par leur galerie marchande, par leur surface de vente. Autrement dit, Tati était pénalisé doublement. Premièrement, parce que Tati était incapable de peser sur les coûts comme des entreprises multinationales type H&M. Et donc, acheter le textile plus cher, il revendait donc plus cher. Et en même temps, c'était une entreprise qui était implantée dans des zones commerciales délaissées par les consommateurs, où la clientèle a un faible pouvoir d'achat. Dans ce contexte-là, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit Tati est capable de retrouver de la compétitivité dans son domaine, en jouant soit sur le principe de différenciation, vendre plus cher mais avec une image de marque plus forte, soit en augmentant la taille de ses magasins et en se développant non plus dans les centres-villes mais à la périphérie des villes, ce qui veut dire investir pour grossir en taille et peser dans les négociations. Donc soit Tati est capable de faire ça. Si Tati n'a pas les moyens ou n'a pas la capacité de le faire, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'est pas performante dans son métier. À ce moment-là, la raison voudrait que le patron de Tati revende les actifs, c'est-à-dire l'enseigne, l'image de marque, les emplacements, les effectifs, tous les actifs de l'entreprise, à une entreprise plus spécialisée, plus performante, soit un groupe de distribution textile, soit un groupe d'hypermarché ou de grande distribution. Tati, alors le patron de Tati a pensé redresser la barre par la diversification. On voit que ce n'est pas la solution quand vous êtes en difficulté sur votre métier, c'est la cessation. Ce qui fait que la diversification a accentué les pertes, et notamment dans le métier de base. Et de toute manière, Tati était obligé de revendre l'entreprise à perte à un groupe, je crois que c'est italien, ou je ne sais plus, de distribution, de grande distribution textile. Donc cette petite histoire pour dire que perdre de l'argent ou ne pas être compétitif dans un métier, ça peut arriver à toutes les entreprises. Et quand vous entreprenez, vous n'êtes pas garanti du succès. Donc, bien entendu, il y a toujours une incertitude. Mais si l'entreprise connaît des pertes, et si elle n'est pas capable de redresser la situation, il est parfois préférable de revendre les actifs tant que l'entreprise ne perd pas trop d'argent et n'est pas trop endettée, donc tant qu'elle n'est pas trop endettée ou ne perd pas trop d'argent, à une entreprise plus spécialisée pour récupérer des ressources et pour les investir ailleurs. Donc on peut aussi se développer, non pas en investissant dans son métier, mais on peut aussi se développer en considérant qu'on a atteint les limites de ses compétences, on revend. Et combien de start-up ont été revendues comme ça à des groupes plus importants, on revend, et avec les moyens, on peut réinvestir dans un autre domaine et se développer dans un autre domaine. Donc le désengagement par la cessation d'activité, c'est pas toujours négatif, ça devient négatif à partir du moment où vous vendez votre entreprise quand c'est trop tard. Quand l'entreprise est perclue de dettes et perd des clients et du chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez plus des actifs, vous vendez des dettes. A l'inverse, si l'entreprise dégage des bénéfices et du chiffre d'affaires, vous vendez un portefeuille client, vous vendez des actifs, une image de marque, des actifs immobiliers, un savoir-faire du personnel, des réseaux avec des fournisseurs, vous vendez du patrimoine et vous vendez quelque chose qui peut intéresser les entreprises. Et donc vous vendez dans de bonnes conditions. Le problème, c'est que quand vous gagnez de l'argent, vous n'avez pas envie de vendre. Et quand vous perdez de l'argent, c'est trop tard. Vous vendez dans de mauvaises conditions. Pourquoi? Parce que qui veut racheter une entreprise qui perd 100 millions d'euros et qui a 200 millions d'euros de dettes? Parce que quand vous rachetez une entreprise, vous rachetez les créances. Oui, vous engagez bien sûr à rembourser les créances. C'est le principe de la reprise. Après cessation d'activité. Donc vous ne vendez pas dans de bonnes conditions. Oui, oui, monsieur.
Une entreprise spécialisée qui n'a pas la possibilité de désengager sur une autre activité, donc si c'est le désengage, elle va disparaître, non ?
Elle va disparaître sous sa forme juridique actuelle. Elle peut renaître d'une façon différente. Regardez Marionneau. Marionneau, ça a été vendu à un groupe chinois. J'ai pas l'impression que les anciennes Marionneau aient disparu du paysage économique. Maintenant, les propriétaires d'entreprises sont différents. C'est un groupe d'investissement chinois. Oui. Bon, il y a eu une restructuration à la faveur du rachat. Mais qu'est-ce qui peut intéresser une entreprise de racheter Marionneau, même si Marionneau perd de l'argent? C'est l'image de l'enseigne, c'est les clients qui sont fidèles à l'enseigne. Alors peut-être que s'il faut restructurer au niveau des coûts, peut-être que l'entreprise va préserver cette image et certains magasins. Bon, de toute manière, ce que je vous explique, c'est que la croissance n'est pas inéluctable. Et que l'évolution d'une entreprise, elle est faite bien souvent de périodes de croissance et de décroissance, de périodes d'investissement et de désinvestissement, de périodes de développement et de stagnation. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui perd de l'argent, si elle continue d'investir sur un marché qui décroît, ça n'a pas de sens. Elle est obligée de réduire la voilure de diminuer ses investissements, de se restructurer. C'est exactement ce que va faire le patron de PSA chez Peugeot Citroën. Peugeot Citroën a perdu 800 millions d'euros de bénéfices d'une année à l'autre. Qu'est-ce que va faire le patron de PSA? Il va pas dire oh, « bah, je continue d'investir, tout va très bien », il va restructurer. Donc il va y avoir des délocalisations, de la restructuration, une recherche de gains de productivité, pour produire à moindre coût et s'aligner au niveau des concurrents dans un contexte de marché difficile où les Coréens, les Chinois ont de l'ambition. Donc, ce que je vous explique, c'est que dans les choix stratégiques, vous ne pouvez pas être tout le temps le pied sur l'accélérateur et que par moment, il faut, en fonction du contexte, ralentir et vous restructurer. Alors, cette restructuration ou ce désengagement, il n'est pas toujours négatif. Il peut permettre de sauver l'entreprise en lui permettant de repartir sur des bases meilleures. Vous prenez Alcatel pendant 3-4 ans, Alcatel a connu une grave difficulté. Aujourd'hui, Alcatel s'est rapproché du Lucent Technologies aux États-Unis. C'est un groupe qui est redevenu performant, rentable et qui compte dans son secteur d'activité. Mais si le patron d'Alcatel n'avait pas opéré cette période de restructuration, de downsizing, de réduction des coûts, des effectifs, de recentrage sur certains marchés ou certains métiers, c'est une entreprise peut-être qui aurait été rachetée ou qui aurait disparu. Alors je vous prends quelques exemples symboliques. Les téléviseurs Thomson sont fabriqués, la partie téléviseur Thomson a été rachetée par des Chinois. La partie réalisation d'ordinateurs IBM s'est fabriquée et s'est rachetée par des Chinois. Donc quand vous achetez un téléviseur aujourd'hui, un téléviseur Thomson ou un ordinateur IBM, ce n'est pas, vous avez la marque, mais ce n'est plus une entreprise américaine ou française, c'est une entreprise chinoise. Donc, et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de l'entreprise de racheter l'image de marque, la notoriété. Bon, les deux autres aspects de désengagement, l'externalisation et le recentrage. Alors l'externalisation, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose aussi qui est particulièrement intéressant. C'est l'idée que on peut, certes, racheter un fournisseur, racheter un distributeur, racheter un équipementier, racheter une entreprise dont on est complémentaire sur une chaîne de valeur. On peut toujours le faire. Mais ça entraîne des coûts et des risques. D'accord ? Je prenais l'exemple de l'éditeur. L'éditeur qui intègre le métier de libraire ou qui intègre le métier d'imprimeur. Ça n'a rien à voir. C'est des approches différentes, des technologies différentes et des savoir-faire différents. Vous pouvez être un très bon éditeur et un mauvais libraire. Un très bon libraire et un mauvais imprimeur. Donc Presse Universitaire de France, pendant des années, était intégrée et supporter des coûts de fabrication supérieurs à tous ses concurrents qui, eux, étaient externalisés. Donc vous preniez Gallimard, Vuber, Dunod, etc. Tous ces éditeurs ont externalisé auprès de spécialistes l'activité de libraire, l'activité d'imprimeur. Donc l'externalisation, c'est pas être condamné à disparaître, c'est avouer que l'on est moins performant sur certains aspects du métier que des entreprises plus spécialisées ou que des entreprises qui ont plus d'expérience ou plus d'apprentissage dans le métier. Je prends un exemple. Je m'appelle Danone ou L'Oréal. Est-ce que j'externalise une partie de mon activité ? Ben bien sûr que oui. Mais peu importe. Bien sûr que oui. Pourquoi vous externalisez, par exemple, la distribution de ces produits? elle n'est pas intégrée, elle est externalisée. Vous pouvez acheter, un consommateur peut acheter des produits Danone ou L'Oréal chez les grands distributeurs, Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si du jour au lendemain, Danone ou L'Oréal décident d'intégrer cette activité, parce que, on l'a dit dans le cours stratégie, est-ce que c'est intelligent? Si du jour au lendemain, les clients qui sont habitués à acheter leurs produits Danone ou L'Oréal ne les trouvent plus sur le lieu de vente, est-ce qu'ils vont spontanément aller les acheter dans un grand magasin appartenant spécifiquement à L'Oréal ou à Danone? Et est-ce que c'est le métier de Danone et de L'Oréal de gérer un circuit de distribution? Alors je vais vous dire, pour ce type de produit, effectivement, Danone ou L'Oréal ont plus à perdre qu'à gagner, parce qu'ils vont se priver du savoir-faire des grands distributeurs, de leurs investissements logistiques, de leur capacité marketing à attirer des clients dans une zone de chalandise, etc. Mais vous prenez par contre dans le tourisme, le groupe Accor, qui est numéro un mondial du tourisme. Accor a développé depuis quelques années plusieurs sites web pour promouvoir et vendre des services en ligne de réservation d'hôtels, de réservation de voyages, etc. En fonction de l'offre de services du groupe Accor. Et bien Accor s'est rendu compte que ça permet de réaliser au moins 40% du chiffre d'affaires du groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur trouve un bénéfice non plus à aller dans une agence de voyage, mais à commander en ligne directement au producteur l'offre de séjour ou de réservation de chambre. Accor a donc fait l'intégration verticale dans la distribution de ses propres produits ou services, et dans certains secteurs d'activité, cela s'avère être quelque chose de pertinent. Non pas parce qu'Accor l'a décidé, mais parce que le consommateur y trouve un bénéfice supplémentaire en termes de gain de temps, de coordination, que sais-je encore. D'économie de coûts. Dans d'autres secteurs d'activité, l'intégration paraît plus difficile. Donc ça veut dire que pour L'Oréal et Danone, le pouvoir de négociation des distributeurs est très important. Il est même tellement important que c'est l'inverse. Ce sont les distributeurs qui sont capables d'intégrer une partie de la valeur ajoutée créée par Danone et L'Oréal à travers les marques enseignes de produits laitiers ou de cosmétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être référencé, Danone et L'Oréal sont obligés de produire sous la marque du distributeur des produits concurrents. Les distributeurs ont fait de l'intégration ou de la quasi-intégration. Je parle de quasi-intégration parce qu'ils n'ont pas réellement acheté des usines de production. Ils ont négocié ces accords avec des annonceurs, des producteurs, pour capter une partie de la marge. Non plus dans la mise en rayon, mais dans la réalisation du produit. Donc, la capacité d'intégration, d'externalisation témoigne des pouvoirs de négociation dans une chaîne de valeur. D'accord ? Donc, dans la grande consommation, on peut dire que les grands distributeurs ont la capacité d'intégrer quasiment tous les produits. Le pouvoir de négociation est plutôt là. L'offre, par exemple, de services touristiques, l'offre de services bancaires, on va dire que la capacité d'intégration verticale est plus forte pour les banques, les entreprises touristiques. Et à ce moment-là, c'est plutôt le producteur de contenu, l'offreur de services, qui détient une position stratégique forte. Donc l'externalisation, ça peut être, en termes de désengagement, reconnaître que l'on n'est pas compétent dans tous les domaines et que si on veut continuer à apporter de la valeur ajoutée à son client, on est obligé de s'adresser à des partenaires, des prestataires, des sous-traitants plus spécialisés, plus performants. Toutes les entreprises le font. Prenez cette honorable université, qui est une administration que l'on peut tout à fait comparer à une entreprise, de production et de distribution du savoir, eh bien, est-ce que l'électricité est produite en interne par, par l'université? Non, elle est externalisée. L'énergie, certains services sont externalisés. Pourquoi? Parce que ça coûterait sans doute plus cher à l'université de produire sa propre énergie que de la sous-traiter à EDF ou à d'autres prestataires. Et par ailleurs, est-ce que ça a un impact sur la production ou la distribution de savoir, et donc sur le positionnement de l'université dans la communauté scientifique? Non, parce que ce n'est pas l'éclairage qui est un aspect majeur dans la valeur ajoutée que l'on apporte aux utilisateurs, aux étudiants. D'accord. Par contre, ça paraît plus délicat, effectivement, dans les compétences, de dire on externalise l'enseignement, faire appel à d'autres institutions pour former des enseignants et les recruter par la suite. Là, c'est prendre un risque sur la qualité de l'enseignement et sur la valeur ajoutée du service proposé aux étudiants. Donc, on voit bien, à travers ce petit exemple, qu'il y a des activités qui vont être considérées comme stratégiques, parce que ça permet de faire la différence par rapport aux concurrents, parce que ça, le client est sensible à ces activités. Eh bien, ces activités-là, il vaut mieux les intégrer. À l'inverse, les activités secondaires, celles pour lesquelles le client les perçoit de façon banalisée, ou qui ne permettent pas de démarquer des concurrents entre eux, celles-là, vous pouvez les externaliser sans prendre des risques, ni sur l'image, ni sur la position stratégique. Donc si on prend l'exemple d'IKEA, avec les meubles en kit, bah, IKEA va externaliser la réalisation des planches, peut-être l'exploitation des arbres, la réalisation des vis, la fabrication des cartons, mais par contre, IKEA va internaliser le design, le marketing, le catalogue, la conception, le cahier des charges, des activités clés pour différencier IKEA d'autres concurrents, et surtout, des activités majeures, déterminantes, dans l'esprit du consommateur. Quand le consommateur achète un meuble IKEA, est-ce qu'il voit des planches et des vis? Non, il voit un design, il voit un aspect fonctionnel ou utilitaire, il voit un meuble particulier avec le style IKEA. Si IKEA externalise la fonction design, recherche et développement, cahier des charges, IKEA n'a plus aucune légitimité. Non, mais vous ne pouvez pas rester positionné sur la distribution. Ce n'est pas suffisant pour vous démarquer des concurrents. Ce n'est pas parce que vous mettez un logo jaune et bleu devant un grand magasin que vous êtes perçu comme IKEA marchand de meubles. Vous êtes perçu IKEA marchand de meubles par le contenu des produits en kit que vous proposez aux clients. Donc, il y a des activités à internaliser, des activités à externaliser. Si vous êtes condamné à externaliser toutes les activités, y compris celles qui sont stratégiques, vous n'avez plus de légitimité. À ce moment-là, vous n'avez aucune performance et légitimité sur le marché, vous disparaissez. Alors bien sûr, le risque, c'est que quand vous externalisez, vous passez par des sous-traitants, vous leur transférez une partie des compétences et technologies que vous avez à travers le cahier des charges, et vous prenez le risque de transformer à terme ces fournisseurs en concurrents. C'est l'exemple d'Airbus en Chine, où les clients, les compagnies chinoises, ont demandé à Airbus de créer en Chine une usine d'assemblage, des pièces détachées de DA380, par exemple. Et il est évident que le risque pour Airbus, c'est d'être confronté à l'apparition d'un nouveau concurrent. Le recentrage, également, qui fait partie du désengagement industriel, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que la diversification est allée trop loin, qu'elle n'apporte pas les synergies attendues, et qu'il convient de revenir en arrière par rapport au choix de diversification et d'une certaine manière de se recentrer sur le métier de base, sur le métier de spécialité. De revenir donc à une logique de spécialisation. Donc je reprends, si la diversification est un échec, pourquoi continuer dans la diversification? Il faut revenir à un recentrage, c'est-à-dire éliminer les activités non performantes, non rentables, déficitaires, et regrouper les ressources autour des activités où l'entreprise a un avantage compétitif durable, a une légitimité par rapport à ses concurrents. Alors, diversification, recentrage, c'est très certainement ce qu'a dû faire le repreneur de Tati. J'imagine que le repreneur de Tati, il n'a pas préservé les voies de diversification marginale, Tati or, Tati mariage, Tati bijoux. Et il est revenu à l'idée que Tati c'est un groupe de distribution, il est revenu sur la valorisation de l'enseigne et des implantations de distribution. Donc il est revenu à un recentrage sur le métier de base. Donc le recentrage, ça peut être une manière de consolider... se développer de façon efficace sans disperser les ressources et sans prendre des risques inutiles. À plusieurs reprises, par exemple Bouygues, on a considéré que Bouygues avec la branche télécom, c'était une diversification qui était marginale, que Bouygues Télécom ne pouvait pas atteindre une taille importante, peser sur le marché, que donc Bouygues Télécom devait être racheté ou revendu à un concurrent. Sans pénaliser le groupe Bouygues dans son ensemble. Il n'est pas impossible qu'un jour Bouygues se sépare de la branche télécom. Non, Universal n'a pas vendu la partie communication ou télécommunication. Au contraire, c'est un des métiers qui rapporte, qui dégage du cash. Par contre, Universal, sur la partie distraction, sur la partie cinéma, sur la partie musique, je crois, s'est rapproché d'un acteur porteur américain sous la forme d'une alliance stratégique. Et par contre, la partie environnement a été effectivement cédée complètement parce qu'il n'y avait pas de synergie ou de complémentarité entre la communication, exemple Canal+, et l'environnement, exemple la distribution d'eau. Il n'y a pas d'enjeu économique ou financier derrière le mariage de ces métiers. Alors, il y avait une publicité maladroite à l'époque sur 100% des utilisateurs d'ordinateurs portables se lavent les mains, mais enfin bon, c'est pas des synergies. C'est pas ça des synergies. Donc forcément, le recentrage correspond effectivement, comme l'évoque votre camarade, sur l'idée que certains métiers ne donnent pas de synergie, c'est-à-dire on ne peut pas valoriser leur complémentarité. Et dans ce cas-là, autant revenir à un métier unique que d'entretenir l'illusion que plusieurs métiers différents vont se marier et apporter un surcroît d'activité un surcroît d'innovation ou un surcroît de pouvoir de négociation sur le marché, alors que ce n'est pas le cas. Donc effectivement, le recentrage correspond aux limites de la diversification. On se diversifie uniquement si on peut valoriser des complémentarités financières, technologiques, industrielles, commerciales. Sinon, cela ne sert à rien de maintenir dans un même groupe des métiers différents. Ça augmente les frais de structure, ça, d'une certaine manière, ça affaiblit la position compétitive métier par métier. C'est donc un élément qui est plutôt préjudiciable à la stratégie d'entreprise. D'ailleurs, pour ça que les Américains, pendant des années, n'ont pas compris comment Vivendi Universal pouvait être à la fois sur le chauffage, la gestion d'autoroutes, ou de parking, la restauration collective, la téléphonie, la production de films, etc. Ils n'ont pas compris. Et donc, s'ils ne l'ont pas compris, ils n'ont pas décidé d'investir dans ce groupe. Et le recentrage s'est donc effectué. Bon, on va passer maintenant à la partie basse du tableau, c'est-à-dire au développement territorial. Et on va envisager les aspects de croissance ou de désengagement. Alors, prenons le premier cas de figure, l'internationalisation. Bon, à quoi ça correspond ?
C'est une adaptation locale, quoi.
Je vais vous expliquer. C'est l'idée que l'entreprise peut être positionnée sur un marché domestique, sur un territoire, et appliquer tout ce que l'on a vu en termes de stratégie industrielle, de la spécialisation, de l'intégration, de la diversification, tout ce que vous voulez. Donc, l'idée sous-jacente, la définition d'internationalisation, on part d'une entreprise qui est positionnée localement, sur un marché domestique. Bon, sur ce marché domestique, elle a passé en revue toutes les formes de développement industriel qui pouvaient exister. C'est peut-être spécialisé, elle a peut-être essayé de faire de l'intégration ou du recentrage, peu importe. Bon, il arrive un moment où l'entreprise est confrontée au choix et à l'alternative de l'internationalisation. C'est-à-dire qu'elle ne peut se développer qu'en sortant de son marché domestique et en développant ses activités sur d'autres territoires. Alors globalement, pourquoi l'entreprise serait-elle confrontée à cette perspective ? Et est-ce que c'est une perspective importante ? Bon. Alors ça, c'est une perspective, je dirais, l'internationalisation, c'est une perspective fondamentale en stratégie d'entreprise. Pourquoi ? Parce que on est dans un monde ouvert sur le plan économique et politique, c'est-à-dire un monde dans lequel très peu de pays vivent en autarcie. Je crois qu'en dehors de la Corée du Nord et de Cuba sur certains aspects, y compris la Chine aujourd'hui, ce sont des pays ouvert à l'économie de marché. Donc finalement, il n'y a pas de barrière particulière dans les échanges industriels ou commerciaux d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre. Donc on est dans un monde ouvert. Ce monde ouvert, il est d'autant plus ouvert que les technologies de communication favorisent les échanges à distance. Il est d'autant plus ouvert qu'il y a une forme d'harmonisation globale et dominante sur la géopolitique avec des régimes politiques démocratiques qui tendent à être basés sur le progrès économique et sur l'ouverture. Donc des technologies de l'information, des marchés ouverts, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans en arrière, où vous aviez des pays en autarcie, du protectionnisme et des économies nationalisées. Aujourd'hui, on est dans une économie internationale. Pour vous donner un exemple, au moins 50% du capital des grandes entreprises françaises est détenu par des investisseurs étrangers. La France est le troisième pays au monde à attirer des capitaux et des investissements étrangers, ce qui veut dire que peut-être 5 ou 6 créations d'emplois sur 10 en France dépendent d'investissements étrangers. Je pourrais continuer la diatribe pendant longtemps et vous expliquer que finalement, les emplois, la croissance économique, la redistribution des richesses dépend peut-être pour 50% des échanges internationaux. Très, très certainement. Ça veut dire que l'avenir d'un pays comme la France est dépendant de l'avenir des autres pays du monde. Et réciproquement. Ça veut dire aussi que l'avenir des autres pays du monde est étroitement dépendant de l'avenir d'un pays comme la France. Donc on est vraiment dans ce que l'on appelle, trivialement, la mondialisation. Alors qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est l'idée qu'il y a, plus de barrières, plus de frontières, et qu'on est, notamment dans le principe d'économie de marché, on est dans une économie de marché mondiale. Prenez un exemple tout simple, prenez les activités sur Internet, le e-commerce ou les sites sur Internet. Dès que vous êtes sur Internet, vous avez une dimension mondiale. Il n'y a pas de barrière technologique pour empêcher quelqu'un de consulter un site à distance. Moi, je regarde par exemple les statistiques sur mon site web, ce n'est pas un site sensationnel. Je suis surpris de constater chaque mois que j'ai au moins des internautes qui viennent, qui visitent mon site en provenance de 20 ou 30 pays différents dans le monde. Pour un site qui n'est pas un site grand public et qui ne présente pas un intérêt d'attractivité extraordinaire. Donc je ne parle pas des sites grand public qui déploient des moyens marketing énormes. Donc l'exemple d'Internet, c'est assez frappant. 20 ou 30 pays différents, alors que tout est rédigé en français, c'est un site vraiment sans attrait particulier. Mais ce que vous constatez sur Internet, c'est valable dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous faites là, avec les morceaux de papier? Vous diffusez des mots doux? Ah, d'accord. Bon. Très bien. Bon, regardez, si vous regardez l'étiquette des vêtements que vous portez, vous verrez que les trois quarts de ces vêtements ont été fabriqués à un endroit, transportés à un autre endroit, conçus à un autre endroit, et que finalement, d'enfermer l'économie du textile mais d'autres économies sur une zone particulière du monde, c'est très réducteur. Ça ne correspond pas à la réalité. Donc pour une entreprise, le choix est très simple, c'est être capable d'avoir une dimension internationale ou disparaître. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les marchés sont mondiaux, ça veut dire que vous pouvez être très fort sur votre marché domestique, mais qu'est-ce qui empêche un concurrent puissant de venir vous concurrencer? C'est pas la technologie, c'est pas les textes de loi, c'est pas les régimes politiques, c'est pas les goûts du consommateur. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous développer à l'international au même rythme que vos concurrents, vous allez perdre des parts de marché sur votre marché domestique et vous ne compenserez jamais ces pertes en vous développant à l'international. L'exemple le plus frappant, c'est les monopoles publics français. La Poste, Air France, France Télécom, etc. La déréglementation européenne a imposé en premier l'ouverture des marchés à Air France et à France Télécom. Ça veut dire que ces entreprises ont perdu le monopole public et ont été obligées de gagner des parts de marché à l'étranger pour compenser la concurrence sur leur marché domestique. Si elles étaient restées uniquement franco-françaises, peut-être qu'aujourd'hui, elles n'existeraient plus. Alors, ce qui est valable pour des très grandes entreprises, c'est aussi valable pour des très petites entreprises. Prenez un petit commerçant qui vend du textile. S'il ne tient pas compte des phénomènes de délocalisation, dont on pourra parler tout à l'heure, des phénomènes de... de différence de production d'un pays à l'autre et de distribution d'un pays à l'autre, c'est un petit commerçant qui de toute manière sera risque d'être dépassé par les événements et finalement de disparaître parce qu'il n'a pas vu apparaître une menace liée à la mondialisation. Alors, pour beaucoup d'acteurs ou certains acteurs ça, qui ne veulent pas en entendre parler, ça fait peur et c'est quelque chose qui apparaît vraiment comme une sorte de mistigrie. En réalité, ça peut être aussi perçu comme une formidable opportunité. Le petit commerçant de quartier qui crée son site web, il ne va plus avoir une zone de chalandise de distribution limitée à une rue ou à un pâté de maison, mais avoir une zone de chalandise qui peut être ouverte au monde entier, d'autant plus s'il s'appuie sur l'image de sites marchands comme Amazon, Yahoo ou eBay. D'accord ? Donc, bien entendu, la mondialisation, ça remet en question beaucoup d'aspects dans la stratégie des entreprises. Si vous n'en tenez pas compte, si vous faites comme si ça n'existait pas, vous êtes sûr, tôt ou tard, de disparaître du paysage économique. Si vous considérez que c'est une opportunité supplémentaire de développement, notamment à l'étranger, et si vous jouez sur ces opportunités, eh bien, vous pouvez vous transformer, changer et vous développer. Alors, qu'est-ce qui pousse une firme à s'internationaliser? Alors, premièrement, si le marché domestique est saturé. Alors, prenez une entreprise, je vais vous prendre la Compagnie des Eaux pour changer, mais bon, c'est assez parlant. Compagnie des Eaux, en France, qui se développe depuis 1850. Donc 100-150 ans d'histoire. Il arrive un moment où sur le marché français, tout le monde est raccordé à l'eau courante. Je suis sûr que je fais un test statistique rapidement. Puis tout le monde va me dire j'ai l'eau courante. Et ma question va vous paraître triviale. Elle n'est pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que, certes, sur le marché domestique français, on peut dire on est arrivé à saturation. La consommation d'eau ne peut pas augmenter de façon considérable. Et donc, pour la Compagnie des Eaux, ça veut dire trouver des gisements de croissance en dehors de la France, en sachant que vous avez 1 à 2 milliards d'êtres humains qui n'est pas connecté à un réseau d'eau potable. En 2007, aujourd'hui. D'accord ? Donc l'eau, l'électricité, le chauffage, tout ce qui vous paraît banal, dans beaucoup de pays du monde, ça ne l'est pas. Ou dans beaucoup de zones, de régions à l'intérieur de certains pays, ça ne l'est pas du tout. Ce n'est pas acquis. D'accord ? Donc, comprendre cela, c'est pour une entreprise comme la Compagnie des Eaux, c'est être capable de dire, je n'ai plus de gisement de croissance en France, je vais aller chercher des gisements de croissance à l'international, dans des pays, par exemple, qui ont besoin d'une reconstruction après une zone de conflit, une période de conflit, ex-Yougoslavie, dans des pays qui se développent leur urbanisation de façon galopante, la Chine, dans des pays qui s'ouvrent à l'économie de marché à marche forcée, en Inde, dans des pays où des perspectives de développement sont possibles. Bon. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est l'idée, je reprends l'exemple du départ sur l'énergie pétrolière, c'est l'idée que pour être compétitif dans l'énergie pétrolière, il faut avoir une taille mondiale. Pour peser dans les négociations avec les pays producteurs de l'OPEP, et puis pour donc être capable de maîtriser les coûts de façon compétitive. Et maîtriser les coûts de façon compétitive, c'est pour certaines entreprises, c'est être capable d'avoir une taille mondiale. C'est être capable d'avoir une taille mondiale. Ça veut dire que si vous êtes, je dirais, positionné au niveau national, voire au niveau européen, pour des entreprises sur certains secteurs, ce n'est pas suffisant. Et vous n'impressionnez personne et vous êtes extrêmement vulnérable. Je prends Canal+, qui est une entreprise en pointe en Europe. C'est une entreprise qui n'a jamais réussi à se développer de façon crédible et tangible en dehors de la France, un peu dans certains pays d'Europe, de façon très marginale. C'est une entreprise qui avait subi des pertes. Et finalement, c'est une entreprise qui, dans le paysage audiovisuel mondial, est extrêmement à une position qui est très faible. Alors, du point de vue de la France, ça paraît merveilleux. À l'échelle mondiale, vous avez des réseaux mondiaux. Vous prenez les réseaux Sky de Rupert Murdoch, par exemple. Vous trouvez les chaînes Sky dans tous les pays du monde. Donc, dans certains cas, réduire les coûts de façon compétitive, c'est avoir une taille mondiale. Et vous ne pouvez pas réduire à l'échelle nationale. Je prends l'exemple de PSA. Si PSA vise le marché français, ça va être peut-être 1 million de véhicules. Or, tous ses concurrents sont à 4 millions de véhicules en produits et réalisés. Donc, si vous produisez que 1 million de véhicules, vous vendrez toujours plus cher vos véhicules que si vous êtes capable d'en produire et d'en réaliser 4 millions. Donc pour PSA, y a pas, l'alternative n'est pas compliquée, c'est être capable de vendre et de produire des véhicules en Inde, en Chine, aux États-Unis, partout dans le monde. Alors Renault l'a bien sûr compris à travers son alliance avec Nissan, et PSA également, a noué des partenariats avec Ford, avec également Fiat, dans certains domaines. C'est indispensable. Autre avantage recherché, c'est le principe du transfert d'un avantage concurrentiel d'un pays à l'autre. Pour conforter une position concurrentielle. Alors, je vais prendre un exemple, mais aujourd'hui, Vivendi, Veolia, transporte des passagers par train en Angleterre. Demain, la SNCF, en tout cas l'exploitation des lignes, sera privatisée. Il est évident que Veolia Vivendi va utiliser ses compétences acquises en Angleterre pour les transférer sur le marché français et va consolider son savoir-faire, ses compétences à l'échelle européenne dans le transport de voyageurs par train. De même, Suez, qui possède Electrabel, le DF belge, et qui va proposer des services d'électricité au grand public, avec l'ouverture du marché, prévue bientôt, et la forme de privatisation d'EDF. Donc là aussi, Suez a acquis une compétence dans la production et la distribution d'électricité en Belgique et transfère cette compétence et cette connaissance sur le marché français en fonction de l'évolution des réglementations. Ce qui lui confère un avantage compétitif, ça renforce sa position en Belgique et en France simultanément. Bon, quatrième explication, l'internationalisation permet de répartir le risque pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le risque pays? C'est être présent sur plusieurs pays simultanément permet de réduire la dépendance à l'égard économique, à l'égard d'un pays par rapport à un autre. Je prends un exemple. Lafarge, qui est numéro un mondial des matériaux. Si Lafarge est positionnée uniquement en Europe, où la croissance en Europe est de l'ordre de 2,5-3%, eh bien, Lafarge ne pourra pas tenir son rang numéro un mondial. Lafarge est obligée d'être positionnée sur des pays où la demande de matériaux est très forte, comme par exemple la Chine actuellement avec 10 ou 12% de croissance. Donc Lafarge, en étant positionnée simultanément en Chine et en Europe, peut très bien jouer sur les complémentarités dans les cycles économiques et dire la croissance est forte en Chine, donc même si la croissance est faible en Europe, la croissance moyenne, la croissance globale au niveau mondial sera bonne. Mais si je ne suis présent que sur l'Europe, eh bien, ça sera quitte ou double. Soit la croissance sera bonne, soit sera faible. Et je ne pourrai pas compenser par d'autres pays où la croissance va s'exprimer de façon différente. Donc, être présent sur différents pays, c'est réduire la dépendance à un seul... réduire les risques de dépendance à un seul pays. De même, quand on voit GDF qui... multiplie les sources d'approvisionnement en gaz auprès de quatre entreprises et pays différents, c'est une manière de réduire sa dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Donc 20 ou 25% du gaz provient de Gazprom, et si Gazprom, pour une raison ou une autre, veut couper l'alimentation vers l'Europe et donc vers GDF pour des raisons X ou Y, GDF peut compenser par l'approvisionnement en gaz d'Algérie ou de mer du Nord, ou d'ailleurs. Mais si GDF est uniquement positionné sur un pays à qu'un seul fournisseur, GDF est donc extrêmement dépendant de ce fournisseur ou de ce pays. S'il y a un problème dans le pays ou vis-à-vis du fournisseur, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. Donc l'internationalisation, c'est aussi une manière de profiter des enjeux de croissance mondiale, en considérant qu'à certains moments, la croissance sera plus forte dans certains pays, plus faible dans d'autres, et que si on est présent à l'échelle mondiale dans tous ces pays, on pourra avoir une moyenne favorable. Cinquième point, c'est répondre à la globalisation de la concurrence, c'est-à-dire être présent sur tous les marchés où les concurrents sont présents. Être présent sur tous les marchés où les concurrents sont présents. On voit bien dans la bataille que se livrent Airbus et Boeing que si Airbus se cantonne à la zone euro et si Boeing dans le même temps se développe dans la zone euro, Asie-Pacifique, Australie, États-Unis, etc. On voit bien que les entreprises ne pourront pas rivaliser sur des bases communes et que l'une des conditions de survie d'Airbus de développement d'Airbus, c'est d'être présent partout où Boeing sera présent. Et réciproquement, pour Boeing, rester compétitif, c'est être présent et proposer des offres partout où Airbus le fait. La compétition mondiale, si vous refusez de le voir comme tel, eh bien, vous perdez des parts de marché, et puis tôt ou tard, vous êtes racheté par votre concurrent, restructuré, vous perdez bien sûr votre indépendance stratégique, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Comment la firme s'internationalise ? De quelle manière ? Elle prend en compte un aspect important, c'est la notion d'avantage comparatif entre les pays. Notion d'avantage comparatif entre les pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les pays du monde vont avoir des spécificités ou des qualités que les autres pays n'auront pas dans l'économie de marché mondiale. On parle d'avantage comparatif. Alors, si vous prenez les pays au Moyen-Orient, l'avantage comparatif de ces pays sont les ressources énergétiques qu'ils possèdent dans les gisements naturels de ressources géographiques, les réserves de ressources. Si vous prenez la Chine, c'est un pays qui a surtout comme avantage comparatif une démographie extraordinaire, plus d'un milliard de personnes. Ça veut dire également qu'en termes d'avantage de coût de main-d'œuvre, c'est un pays où la main-d'œuvre est bon marché par rapport à d'autres pays. Prenons la France c'est l'inverse. C'est la main-d'œuvre coûte très cher, mais elle est extrêmement qualifiée. Donc ça aussi, ses avantages. Prenons l'Irlande. L'Irlande en Europe, c'est un pays où la fiscalité est très faible pour la création d'entreprises. Prenons l'Espagne, la productivité la plus forte en Europe. Prenons l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays où l'excédent commercial est le plus fort. C'est-à-dire, c'est le pays où, pour réaliser des produits à forte valeur ajoutée en Europe, il vaut mieux, notamment en machine-outils, dans l'automobile, etc., il faut mieux les faire réaliser en Allemagne. Qu'est-ce que l'on peut prendre encore comme pays ? Enfin, tous les pays ont des particularités à un moment donné. Alors, ils peuvent conserver ces particularités ou les perdre, ça peut se transformer, mais chaque pays joue avec un certain nombre de particularités pour attirer des investisseurs et susciter l'implantation de firmes dans des choix d'internationalisation. Pourquoi s'implanter dans tel pays et pas dans tel autre ? Ça, c'est une question importante à partir du moment où on a pris la décision de s'internationaliser. Alors, je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de l'Inde et de la région de Bangalore en Inde. C'est une région extrêmement compétitive sur le plan dans le secteur informatique, dans la réalisation de logiciels. Pourquoi ? Parce que vous avez une concentration de 800 petites et moyennes entreprises dans la région de Bangalore. Et dans ces 800 petites entreprises, vous avez des salariés avec des salaires qui sont d'une certaine manière plus bas que dans d'autres entreprises. Donc le niveau de salaire et de cotisation sociale, etc., est plus faible que dans d'autres pays. Mais en même temps, vous avez une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, des ingénieurs qui sont formés à Stanford, au MIT, en Europe, et qui travaillent à Bangalore. Donc vous avez une main-d'œuvre très qualifiée et avec des salaires 30, 40, 50% plus bas que dans d'autres pays. 800 PME concentrées, une maîtrise de la langue anglaise pour cette main-d'œuvre, des infrastructures de communication qui sont bonnes. Il n'y a pas de barrière douanière. Le pays ouvre les échanges commerciaux pour attirer les investisseurs. Donc il n'y a pas de barrière en produisant en Inde et en exportant ailleurs. On ne perd pas le bénéfice comparatif par des taxes de douane. Le réseau de recherche universitaire est extrêmement développé. Donc il y a des universités de très haut niveau. Il n'y a pas de barrière à l'entrée pour les implantations d'entreprises. La fiscalité est très faible. Donc le pays attire des investisseurs dans cette région, ne les empêche pas d'échanger avec l'extérieur avec les droits de douane qui seraient forts. Et bien sûr, ça attire la présence de multinationales, IBM, Apple, etc., Microsoft, qui renforcent l'attractivité de cette région, qui attirent d'autres entreprises, et vous entrez dans une logique de cercle vertueux sur des marchés à forte croissance dans l'informatique et dans le software. Donc, pour une entreprise informatique mondiale, ne pas être présent à Bangalore, c'est d'une certaine manière prendre un handicap compétitif sur les concurrents. Mais ce qui est vrai pour l'informatique, ou les centres d'appels téléphoniques d'ailleurs, sera différent dans d'autres secteurs d'activité. Sur le textile, le savoir-faire sera beaucoup plus maîtrisé au niveau de la Chine. Sur la production automobile, plutôt en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud. Donc chaque pays va développer sa croissance sur des effets de spécialité. Alors vous allez me dire quelle est la spécialité de la France et quel est son avantage comparatif. Oh, il y a effectivement l'industrie du luxe qui est reconnue. Comment ? C'est tous les projets, tous les grands projets qui nécessitent un centralisme d'État, comme le nucléaire, les TGV, l'Airbus, bon, partenariat européen, des projets finalement qui sont très difficiles à mettre en œuvre à l'échelle d'une entreprise. Et qui sont plutôt liés au centralisme d'État et à l'implication de l'État dans l'économie. Les télécommunications, la distribution électrique, etc., etc. Donc il y a des champions mondiaux en France, et la France attire les investisseurs pour, en partie, les compétences, la formation, le réseau d'infrastructures, notamment pour rayonner en Europe en produisant sur place pour les activités de service, etc. Alors, comment les entreprises se développent-elles à l'international? Alors là, je vous renvoie et on va discuter deux minutes de ce tableau. Les formes de développement international des entreprises. Comment se passe la stratégie d'internationalisation? Eh bien, vous pouvez le constater sur ce tableau, il y a deux paramètres à prendre en considération. Premièrement, l'adaptation locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que dans l'implantation internationale, la stratégie internationale, est-ce que pour le produit et service, il est important d'envisager une adaptation locale ou pas? Autrement dit, est-ce qu'on peut produire et commercialiser un produit de la même manière partout dans le monde, dans ce cas-là, ça sera faible, ou bien est-ce qu'au contraire, on doit avoir une adaptation locale forte ? Premier critère. Deuxième critère, les synergies globales liées à l'internationalisation. Est-ce que se développer à l'international est important pour réduire les coûts ou pas ? Est-ce qu'on peut jouer sur des économies d'échelle ou pas en se développant à l'international ? On va prendre, premier exemple, la stratégie multidomestique. La stratégie multidomestique, qu'est-ce que c'est ? C'est le cas d'une entreprise comme Hachette dans l'édition qui se développe à l'international en créant des filiales qui vont proposer des offres d'ouvrages différentes d'un pays à l'autre. Donc le but, c'est pas de jouer sur des économies d'échelle, mais c'est de jouer sur l'adaptation locale et sur la différenciation des activités. Donc c'est une entreprise qui certes va être internationale, mais avec des différences très importantes pays par pays. Et donc Hachette Espagne, Hachette Allemagne sera différent de Hachette France. On ne retrouvera pas les mêmes produits adressés à la même clientèle, etc. Donc c'est une stratégie qui est multidomestique d'une certaine manière. Ça veut dire que chaque pays est géré en centre de profit autonome, doit couvrir ses revenus et ses charges, centre de profit dit indépendant des autres. Prenons le deuxième carré, la stratégie dite internationale, d'après les éléments que j'ai récupérés dans le Stratégorms. Alors, international, ça veut dire que l'adaptation aux spécificités locales est faible et la recherche de synergie globale pour réduire les coûts est également faible. Bon, c'est l'exemple de Benetton qui se développe à l'international par franchise et qui va vendre des licences d'exploitation de ses produits avec des partenaires locaux. Donc, d'une certaine manière, Benetton n'adapte pas les produits spécifiquement à la demande locale, ce sont des produits standardisés. Et son objectif de se développer pays par pays ne permet pas nécessairement de réduire les coûts, mais d'augmenter sa couverture territoriale vis-à-vis de ses concurrents. Donc peut-être de développer l'image de marque ou de défendre une image de marque. Troisième cas de figure, la stratégie dite globale. Là, on a deux aspects qui sont liés. C'est un, l'entreprise standardise le produit ou le service et le vend tel quel à l'échelle mondiale. Et deux, elle cherche à diminuer ses coûts. Et donc, en se développant à l'international, elle envisage de diminuer ses coûts. Alors, comment ? Eh bien, si vous prenez Danone, Fiat ou McDonald's, ce sont des entreprises qui vont délocaliser une partie de la production, de la fabrication dans des pays où les coûts de fabrication et de production sont plus bas qu'ailleurs, qui vont conserver l'idée de standardisation du produit ou du service, et qui vont rechercher donc à la fois économie de coûts en se développant à l'international, par exemple sur les campagnes marketing, ça permet d'amortir les frais de communication, de publicité, non plus sur un pays, mais sur des dizaines de pays, et puis de réduire les coûts, et en même temps, avec une adaptation locale qui n'est pas très élevée, qui n'est pas forte, sur des produits qui vont, d'une certaine manière, être mondialement connus, ou des produits avec des images de marque fortes, et pour lesquelles le client espère retrouver, d'un pays à l'autre, les mêmes caractéristiques. Et puis vous avez la stratégie transnationale, c'est à la fois adapter très fortement les produits ou services aux conditions locales de marché, tout en étant capable de réduire les coûts. Ça peut être le cas par exemple d'une entreprise comme IBM, qui va développer un nouveau software pour les entreprises et qui va amortir des frais de recherche et développement sur une clientèle mondiale en adaptant les fonctionnalités ou l'utilisation du software aux demandes locales spécifiques. Donc c'est une entreprise qui, pour amortir ses frais de recherche et développement, est obligé d'avoir une taille mondiale, mais en même temps doit répondre spécifiquement aux attentes de ses clients. Donc c'est une entreprise qui peut faire à la fois de la standardisation et de la différenciation. Donc je dirais que les cabinets de conseil, les entreprises de services, sont un peu dans ce registre-là. Vous prenez KPMG, Coopers, Accenture, etc., sont dans ce registre-là. Vont mettre en place des recettes de consulting et les adapter, les appliquer localement avec des équipes autonomes, indépendantes et gérées en centre de profit autonome. D'accord ? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Accenture a connu sa grave crise aux États-Unis avec l'affaire Enron, ça n'a pas nécessairement affecté en termes d'image de répercussions les autres filiales d'Accenture à travers le monde. Oui ? La différenciation retardée. C'est un peu ça, oui, ça ressemble un peu à la différenciation retardée. C'est-à-dire que vous êtes capable de standardiser et puis localement vous allez adapter. Donc vous jouez à la fois sur les économies de coûts. Mais vous êtes obligé d'adapter votre produit ou votre service, sinon vous ne le vendez pas au niveau local. Donc oui, effectivement, on serait plutôt dans de la différenciation retardée, ici plutôt dans de la différenciation, là dans de la standardisation, et là à la fois de la standardisation et de la différenciation à la fois. Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point ou est-ce que c'est clair? Sur le, c'est-à-dire le transnational, c'est adaptation locale forte et synergie globale forte. Donc synergie globale, ça veut dire qu'il va y avoir des complémentarités entre les pays. Dit sur des activités transversales, comme la recherche et développement, le recrutement, la formation, et avec une adaptation locale forte des produits ou des services proposés aux clients. Donc je prenais l'exemple d'IBM. Si IBM développe par exemple un logiciel de système d'information, Ce logiciel sera le même partout dans le monde, mais avec des fonctionnalités différentes d'une entreprise à l'autre, d'un contexte à l'autre. Donc c'est un peu le cas des activités de conseil notamment. Donc c'est un peu ce que disait votre camarade, on est d'une certaine manière, quand on fait du transnational, dans de la différenciation retardée. L'adaptation locale, différenciation pays par pays, est retardée parce qu'il y a de la standardisation en amont. C'est-à-dire que quelque part, le produit ou le service va être le même partout dans le monde, mais on va l'adapter localement sous certaines caractéristiques à la demande du client. Mais si vous regardez concrètement, les logiciels proposés par IBM sont les mêmes en Autriche, en France, en Allemagne, au Japon. Mais l'utilité, la fonctionnalité de ces logiciels va être différente d'une entreprise à l'autre, d'un contrat à l'autre. Donc c'est une entreprise transnationale avec des filiales autonomes, mais qui obéissent à une politique marketing mondial, qui obéissent à une culture d'entreprise mondiale d'IBM. Donc vous travaillez chez IBM, vous êtes dans une culture d'entreprise américaine, dans l'informatique, même s'il y a des spécificités locales fortes qui doivent s'appliquer dans le suivi des clients, etc. C'est pas le cas dans la stratégie globale où l'adaptation locale est beaucoup moins forte. Vous pouvez proposer des produits, exemple McDonald's ou Fiat ou Danone, c'est des produits qui vont être... Oui, voilà, c'est une forme de... On recherche une économie de coût par la taille. Avec un produit qui serait international, global, et... je pense le lancement d'une console de jeux vidéo là, partout dans le monde au même moment, c'est, ou le lancement d'un film partout dans le monde au même moment, c'est quelque part une stratégie globale. D'accord ? Alors, on va parler 10 minutes d'un aspect aussi important. Clore ce chapitre sur les formes de développement, c'est la dimension financière. Ah oui, on n'a pas parlé de ça, effectivement. Bon, alors, on va parler un peu de délocalisation et de relocalisation. Bien. Alors, la délocalisation, c'est l'idée qui consiste à dire je vais produire ou faire produire dans un autre pays. Alors pourquoi ça peut se justifier? Certes, vous avez à l'esprit les différentiels de salaire, mais ce n'est pas uniquement la raison recherchée. Parfois, ça peut être pour réduire les coûts de transport. Prenez la fabrication d'automobiles. Si vous voulez vendre des automobiles en Inde et être compétitif, vous n'allez pas les fabriquer en Espagne, en Europe,